Eh bien, une nouvelle exposition au lieu dans la halle Jean Guéteigneau à Pontarroyan, avec pour ce début d'année 2021, L'émail des croûtes avec Émilien Adage. Une exposition qui aussi donne une dimension beaucoup plus large que celle de Pontarroyan, puisque c'est en partenariat avec un programme de résidence d'artistes dans les refuges de haute montagne, L'Envers des Pentes. Bonjour Julia.
Bonjour.
Alors déjà, vous pouvez nous expliquer avant de commencer à monter vers les cimes et découvrir tout ce qui comporte l'inspiration de Émilien, cette notion de refuge de haute montagne, de création et puis d'un programme en partenariat avec d'autres structures.
Oui, donc effectivement, la halle n'est pas à l'origine de ce format de résidence qui est très particulier et qui est porté donc par l'association L'Envers des Pentes, avec qui on s'est associé cette année pour une collaboration un peu plus poussée, c'est-à-dire L'Envers des Pentes, chaque année, invite 8 artistes entre le mois de juin et les mois d'août pour être en immersion dans ces milieux de la haute montagne, dans les parcs nationaux des Écrins, et vivre vraiment au rythme de la vie du refuge. Il y en a plusieurs qui sont assez disséminés, donc il y en a qui sont, on va dire, à moyenne altitude, et il y en a qui sont vraiment très 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 perchés à haut du sommet, notamment le refuge du Promontoire. C'est quand même un environnement assez spécifique et des conditions de travail qui sont aussi assez spécifiques. Émilien Adage a été choisi comme artiste lauréat d'un programme un peu plus particulier pour Fondy, c'est-à-dire qu'on lui a proposé, suite à ses séjours, cette résidence en montagne, de réaliser une exposition dans nos salles. Donc c'est la première année qu'on collabore de cette manière, même si on accueille déjà L'Envers des Pentes l'année dernière, donc en 2020. Juste avant que le monde s'arrête, pour une présentation du travail qui avait été réalisé par les résidents 2019. Donc c'est quand même une association avec qui on travaille de plus en plus souvent et voilà, avec qui on monte des projets de plus en plus assidus.
C'est une association régionale, L'Envers des Pentes, qui intéresse la montagne?
Oui, après, ils sont trans-régionales, dans le sens que le parc des Écrins entre Rhône-Alpes et PACA, mais l'association est basée à Grenoble.
Précisons aussi que le lieu est ouvert, malgré les fermetures assez larges des lieux d'exposition. Celle-ci, étant attenante à la médiathèque, fait qu'elle soit ouverte assez largement.
Oui, effectivement, on bénéficie d'un classement établissement recevant du public des types S. Donc, c'est langage très administratif. C'est traduit dans les faits par une ouverture de nos salles d'exposition aussi. En attendant, jusqu'à nouvel ordre, pour une fois, c'est positif pour nous. Donc, à l'état actuel des choses, c'est ouvert jusqu'au 27 février.
Pour terminer cette première partie, Julia, l'exposition a été soutenue par une fondation.
Oui, effectivement, il y a la Fondation Mouloukian, qui est une fondation privée qui a soutenu une partie de notre programmation, notamment à raison de la crise sanitaire. Ils ont mis en place un fonds de soutien, justement la création, vraiment ciblée pour des projets artistiques des qualités ambitieuses. Donc on a bénéficié de cette aide aussi pour une partie de notre programmation, dont les mailles des croûtes.
Merci. À retrouver donc jusqu'en cette fin février. Hein.
Regardez sur les sites les infos les plus récentes.
Aux heures d'ouverture de la médiathèque. Je me tourne vers Émilien Adage. Déjà, cette première question en préambule, vous êtes un habitué de créer en milieu de montagne?
Oui, je suis originaire de Grenoble, en fait, donc j'ai pas mal évolué en région Rhône-Alpes et pas mal évolué autour de la montagne et depuis longtemps. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on m'invite régulièrement dans des centres d'art ou dans des résidences comme ça, un petit peu reculées en montagne ou dans la nature. Alors, je fais pas que ça, hein, mais ça m'arrive.
Alors, dès que vous avez eu connaissance de ce programme avec les lieux de résidence en montagne, tout de suite, pour vous, ça a paru complètement naturel d'opérer.
Oui, et puis surtout, en fait, ça fait 3 ans que je travaille sur un sujet qui est lié au paysage, en fait, et une certaine notion du paysage. Et du coup, ça tombait plutôt bien qu'on m'invite dans ce milieu-là à ce moment-là.
Alors, combien de temps êtes-vous resté en refuge, hein ? C'est bien cela ?
Alors, je suis resté une semaine en refuge, dans le refuge de l'Alpe de Villard-d'Arène. Donc, une semaine entière, ce qui peut paraître court, mais en même temps assez long quand on est dans ce cadre-là, dans ce milieu-là, au rythme en fait, du refuge en montagne, sans Internet, avec de l'électricité limitée et puis pas de matériel aussi, parce que du coup, un seul sac à dos, il faut monter à pied, prendre ce dont on a besoin dans son sac à dos et donc transporter en permanence son matériel. Donc, ça peut paraître court, mais en même temps, c'est assez long, c'est suffisamment long.
D'accord. Donc une immersion qui est bien adaptée à votre création. Alors des sujets visés, quand on parle de milieu de montagne, ça évoque un environnement assez vaste. Vous êtes focalisé sur un sujet en particulier ?
Oui, alors moi je me suis focalisé sur le sujet oasis, c'est une notion que donc je travaille depuis quelques temps maintenant. En fait, c'est une notion qui m'interpelle et c'est pour moi une façon d'évoquer des formes de paysage. Sauf que là, comme j'étais en montagne, dans un refuge, immergé comme ça dans un paysage de montagne assez grandiose, je me suis retrouvé un peu confronté à cette nature-là et un peu en difficulté pour évoquer directement la nature. Donc en fait, j'ai pas produit des formes, parce que je fais plutôt de la sculpture et de l'installation, j'ai pas produit des formes qui rappelaient directement des formes naturelles, mais j'ai fait plutôt l'inverse. En fait, j'ai utilisé des formes plutôt artificielles, en fait, des outils et des matériaux que j'avais dans mon sac à dos. Du matériel de randonnée, en fait, des piquets de tente, des tapis de sol, une couverture de survie, enfin, tout ce type de matériel-là, un peu qu'on a l'habitude d'utiliser en montagne, que j'ai détourné, en fait, et que j'ai utilisé pour créer, en fait, des formes, en fait, des structures que j'ai installées dans la montagne. Donc, c'était plutôt comment des formes artificielles ou des structures de construction humaine, en fait, pouvaient se confronter à la nature. C'était pas reproduire des formes naturelles dans la nature, parce que ça me paraissait un peu impossible.
D'accord. Mais quelque chose qui s'harmonise de manière artificielle avec le décor et puis l'emplacement sur lequel ils sont installés.
Oui, c'était quelque chose qui était... C'était des structures, en fait, qui étaient pensées dans des... J'avais fait un peu de repérage, en fait, dans la montagne. Et c'était des structures qui étaient installées dans des endroits précis que j'avais sélectionnés par rapport à des reliefs ou par rapport à des éléments de nature. Et que j'ai installé de manière temporaire, c'est-à-dire qu'ils cohabitaient de manière temporaire avec le paysage, le temps d'observer ce qui pouvait se passer à ce moment-là, le temps d'une heure, le temps de faire des photos et puis après de tout démonter. Quand on voit le résultat, en fait, on a du mal à effectivement percevoir certains éléments parce qu'en fait, toute mon activité a été dans le fait de détourner ces éléments-là, de les redécouper, de les réassembler ensemble, de les recoller. Et pendant tout au long de la résidence, en fait, j'ai fait comme ça à peu près une dizaine d'installations, parce que à peu près une par jour à chaque fois. Et en fait, petit à petit, tous les éléments se retransformaient de jour en jour, parce que le premier jour, je les installais, le deuxième jour, je reprenais les mêmes éléments que je retransformais, que je réinstallais, ainsi de suite. Donc à la fin, on perd un peu l'utilisation et la fonctionnalité, effectivement, de l'objet de base, en fait, qui devient vraiment un élément de sculpture, en fait.
Et effectivement, c'est intéressant de voir la différence entre le travail qu'il a pu réaliser en plein air, en montagne, et ce qui est proposé dans l'exposition. Donc, avec l'Inverse des Pentes, il y a une petite édition qui a été produite et qui est disponible à l'entrée de l'exposition. Et puis, il y a un objet, par contre, les seuls objets de la résidence, il est exposé en extérieur du centre, devant la porte du centre d'art. C'est un drapeau d'explorateur alpin, version Émilien Adage, que vous pourrez découvrir à toute heure.
Ça a été aussi le fruit de vos repérages qui a fait que vous placiez ceci en amont, ou ça a été plus dans la spontanéité, finalement ?
Ça dépendait des jours, en fait, mais il y a des jours où... parce que en montagne, quand je partais comme ça un petit peu en exploration du territoire, il y avait des jours où j'étais soumis aux intempéries, à la pluie, au froid, au manque de soleil, etc. Donc en fait, il y a des jours où je trouvais le bon endroit, c'était le bon moment, je m'installais et j'avais le temps de le faire. Il y avait d'autres moments où il était trop tard, il fallait que je rentre au refuge, la pluie allait tomber, donc je ne me lançais pas dans la préparation d'une nouvelle installation, mais je repérais un lieu et le lendemain je retournais sur ce lieu-là, en fait, une sorte d'aller-retour comme ça.
Alors, dans le lieu d'art, c'est d'autres axes de votre création avec des matériaux que vous travaillez et qui donnent effectivement une certaine harmonie avec la montagne. C'est très, très minéral.
En montagne, je ne pouvais pas, à mon sens, former des objets rappelant la nature, les minéraux ou ces choses-là, parce que j'étais déjà dans le milieu naturel. Là, dans le centre d'art, j'ai pris l'inverse un petit peu comme ça de la chose, où j'ai essayé d'observer dans l'espace du centre d'art initial ce qu'il pouvait me faire penser à un paysage. Et en fait, j'ai pris appui sur le plafond en fait de la première salle du centre d'art, qui est un plafond recouvert de ouate de cellulose gris et qui et pour moi déjà une forme de paysage direct. Et en fait, je me suis un peu comme ça appuyé sur cet élément-là pour décupler comme ça une série de formes, en fait, de volumes, de structures, de sculptures, en fait, évoquant le paysage, mais plus directement. Là, c'était vraiment faire référence à un paysage intérieur, du coup. C'était un peu le paradoxe entre le fait d'être en extérieur et le fait d'être en intérieur.
Et là, on voit effectivement ce matériau, c'est de la ouate de cellulose, donc, qui compose ces concrets montante ou descendante?
Alors j'ai tout un champ comme ça de matière en fait. Il y a de la ouate de cellulose, il y a du plâtre, il y a des granules de plâtre, il y a des plaques de pharmacelle qui sont des assemblages de ouate de cellulose et de plâtre. Il y a de la terre, de la céramique, de la mousse polyuréthane, de la laine de verre. Toute une série en fait de matériaux qui sont que des matériaux liés au bâtiment et liés à l'isolation. Parce que le terme d'isolation est aussi un terme important en fait dans mes recherches autour de l'oasis. Parce que en fait l'isolation, protégé, isolé de la nature ou non, c'est quelque chose qui me paraît important moi en tant que qu'explorateur comme ça, que marcheur ou que personne en fait étant intégré ou comme ça se confrontant à la nature en fait. Donc ce terme-là est pour moi important et je cherche toujours comme ça à pousser un peu les limites en fait d'une isolation, d'une non-isolation. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce champ comme ça lexical de matière. Et la casquette en fait partie aussi parce que c'est aussi un matériau qui sert à isoler l'être humain en fait de la nature, par exemple du soleil ou du froid. Et, les bonnets aussi, on voit des formes dans mes sculptures qui partent de formes de bonnets en fait. Et ce qu'on voit là en fait, ce sont toutes sortes de formes qui sont générées à partir de la technique du moulage. Donc je moule en fait des casquettes, je moule des bonnets, je moule des auges en fait en caoutchouc. Les stalactites qui tombent, ce sont aussi de la matière qui est coulée dans une autre matière, dans la ouate de cellulose par exemple. Donc c'est vraiment un jeu comme ça sur la technique du moulage en fait. Et à chaque fois, j'essaye en fait petit à petit de m'émanciper un petit peu comme ça de formes. Je parle de casquettes, de bonnets, comme ça de formes un peu qu'on arrive à déterminer. Mais petit à petit, je m'émancipe en fait, de ces formes-là utilitaires pour, par le biais de stratification de matière, de matériaux, de couches en fait comme ça, d'arriver à avoir des formes qui de plus en plus rappellent effectivement des minéraux, des coraux, des choses végétales, en tout cas des choses qui sont plus de l'ordre d'une nature, alors d'une nature un peu fantasmée, parce qu'une nature un peu jaune fluo, un peu chimique, on ne sait pas trop, c'est une espèce d'alliage comme ça entre le naturel et l'artificiel, entre quelque chose de façonné et quelque chose de naturel, et j'essaye voilà, de créer comme ça une sorte d'environnement qui rappelle une nature, mais une nature qui, voilà, alors on ne sait pas bien si c'est une nature futuriste, si c'est une nature passée, si c'est une nature fantasmée, si c'est des choses qui existent, une nature un peu hors temps comme ça.
C'est vrai qu'il y a une dimension un peu à l'instar des concrétions que l'on retrouve sur le Vercors, de calcification, d'objets figés. Hein.
Bah oui, bien sûr. Et puis le fait d'être ici à Pont-en-Royan, avec toutes ces grottes qu'il y a autour, ces histoires d'eau comme ça qui dépose du calcaire et puis qui crée des concrétions, qui fige des matériaux. En fait, c'est évidemment des choses qui m'intéressent. C'est comment le paysage, en fait, petit à petit, recouvre en fait, les éléments naturels, mais les éléments aussi artificiels comme les casquettes ou d'autres choses qui nous font penser à des choses manufacturées, humaines, et comment la nature petit à petit, en fait, le paysage recouvre en fait tous ces éléments-là et vient figer et vient comme ça donner une nouvelle dimension.
Alors ça, c'est l'objet de la première salle. La deuxième aussi, il y a un contexte aussi un peu mouvant dans vos propositions. Des bacs sont installés. Il se passe des choses au fur et à mesure du temps, peut-être plus facilement observables que dans la première pièce.
Oui, voilà, la première pièce, c'était plus une sorte d'environnement comme ça, avec des sculptures, des objets qui cohabitent les uns avec les autres, qui sont présentés, qui forment des sortes de stratifications avec un jeu d'échelle, un jeu d'espace aussi. Et dans les deux autres pièces qui s'enfoncent un peu plus dans l'espace du centre d'art, comme ça, comme des cavités, comme des grottes, j'avais un peu envie de recréer une autre dimension, une autre suite à l'histoire en proposant deux autres installations qui sont plus de l'ordre du processus de création et aussi du processus de fabrication des pièces qui sont présentées dans la première salle. Donc on retrouve effectivement des bacs dans une des premières salles, des bacs qui ont servi à façonner des pièces de la première salle, dans lesquelles décantent en fait de la matière qui aussi ont servi potentiellement à façonner les œuvres de la première pièce, qui sont des restes ou qui sont des résidus, des échecs. Donc pour qu'il y ait comme ça une espèce de circuit dans l'exposition et qui raconte un petit peu, qui pousse le public à se raconter une histoire assez ouverte. On n'est pas, voilà, chacun se raconte son histoire, mais en tout cas qu'on aille de plus en plus dans les pièces comme ça, physiquement, qu'on aille vers quelque chose de plus en plus de l'ordre, oui, du façonnage, du processus de fabrication. Et
pour la troisième pièce, on est accueilli par la lumière, hein, et toujours un contexte aussi minéral, hein.
Voilà, et la lumière, c'est aussi quelque chose que j'utilise régulièrement et qui me sert comme ça à amplifier un petit peu la notion d'environnement, la notion de paysage intérieur ou d'espace. C'est vraiment un dialogue avec le bâtiment, en fait. Même comme dans la première pièce, tout à l'heure, je parlais d'un échange comme ça entre mes installations et le plafond, avec l'espace, voilà, un dialogue avec l'espace. Dans les deux autres pièces, il y a aussi un dialogue avec l'espace, parce que du coup, j'ai réutilisé des systèmes électriques, en fait, qui existent dans ces espaces-là, les systèmes néons, en fait, que j'ai simplement baissé et retransformé et remodifié pour en faire des structures et des sculptures, en fait. Donc c'est encore une fois un jeu avec ce que je retrouve dans l'espace et ce que je peux installer ou organiser. La dernière pièce qui est tout au fond, où on voit des structures lumineuses, est aussi quelque chose qui pourrait être perçu comme un fil conducteur avec ce qui s'est passé en résidence. Parce que ce sont justement des assemblages de tubes néons, un petit peu comme l'étaient les assemblages que j'ai pu faire en montagne, de pics de tente, voilà, d'espèces d'élévations, des choses comme ça construites, assemblées par l'artiste, par moi, par quelqu'un, et qui font penser à des outils, à des choses qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés, qui ont été utilisés, qui ont une utilité.
Merci beaucoup, Émilie Adage, pour toutes ces explications, votre éclairage sur l'exposition donc, au lieu d'art, et puis le fascicule qui est proposé en arrivant pour donner aussi toute la dimension de vos œuvres, vraiment in situ, en pleine nature, en milieu de montagne. Merci beaucoup, Émilie Adage, et merci beaucoup aussi, Julia. Un petit mot pour terminer.
Venez, tant que c'est ouvert. À bientôt.
À très bientôt.